Bonjour, on continue notre petit voyage au pays de l'illustration ce matin en accueillant donc le prix Artefact 2009 Jean-Baptiste Monge que je vous remercie d'accueillir.
Merci.
Alors normalement on aura peut-être un diaporama en même temps. Très bien, on va avoir quelques belles images. Vous avez pu découvrir, enfin vous connaissiez certainement, mais disons que Utopial a permis, et le prix Artefact a permis de montrer les originaux tout au long de ce festival. Donc vous avez pu peut-être les regarder en détail pour l'exposition donc, de Jean-Baptiste. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le bonhomme derrière le crayon.
Et aussi découvrir les livres.
Parce et de l'interroger aussi là-dessus. Et les livres, effectivement. Donc, bonjour Jean-Baptiste. On va, je dirais, discuter un petit peu tranquillement de ton
ouais,
travail.
Ouais. Moi, je serais peut-être moins à l'aise qu'Alexis et donc Jean-Sébastien, qui sont assez doués, je dois dire, pour parler. Moi, je reste dans mon atelier les trois quarts du temps. Je ne vois pas grand monde. Donc, c'est vrai que c'est plus habitué à ma petite fenêtre et ma grande table et pas trop de gens, même si là c'est bien, il n'y a pas trop de gens, donc c'est plutôt pas mal.
J'ai quand même l'impression qu'il y a un maximum de monde et de petits personnages sous ta grande table quand même.
Oui, je pense qu'il y a effectivement, une grande table doit être très fréquentée, c'est vrai.
Elle a l'air super fréquentée. Oui,
ouais, mais non, c'est très... tout se passe dans la tête, donc c'est vrai que c'est pas... Enfin, je suis pas très à l'aise à parler de ça. Mais
bon, on va essayer de le mettre à l'aise, d'accord, voilà. On va essayer de faire comme si on était à la maison. On regarde pas par là-bas, ils sont pas là, on est tranquillement installés.
Ouais.
Ce serait quoi d'ailleurs? Plutôt whisky, hein, je crois. Hein.
Moi, je suis plutôt whisky, c'est vrai. Mais la vodka me déplaît pas non plus.
Alors juste, voilà, un petit... on revient un petit peu deux minutes sur ton parcours, que je ne connais pas ou peu, en fait. Alors, tu vas un petit peu nous raconter comment... Donc, tu es issu de la région.
Oui, je suis nantais. Je suis né à Nantes en 71, il me semble.
Alors, moi, est-ce que c'est donc un parcours, entre guillemets, je dirais classique, et qui fait que ensuite, si l'on réunit, à savoir deux conditions, être né dans la région et avoir eu un crayon en main, est-ce que l'on rencontre le petit peuple obligatoirement?
Non, je pense pas, non. Et puis, c'est un parcours qui est très classique, et même pas très bon, d'ailleurs, parce que... Le scolaire est pas atypique, mais plutôt nul. Le reste, pas grand-chose. J'ai quitté l'école assez vite. Je pense en troisième, terminale quand même. Ouais. J'ai dû aller jusqu'en terminale. Enfin, je ne l'ai pas faite. Hein. Et j'ai passé, au lieu d'aller, j'avais pas beaucoup de choix. Le Beaux-Arts, c'était pas pour moi, parce qu'il fallait le bac à l'époque, donc c'était pas terrible. Et les écoles de pub, qui étaient assez chères, mais... Non, à cette époque-là, je pense que je savais que je voulais faire quelque chose dans le dessin, mais quoi, j'en savais trop rien. C'est vraiment en découvrant les livres. Il y avait une librairie, il y avait Aladdin qui était pas mal à l'époque à Nantes, et puis une autre qui était rue du Château, dont le pauvre, je ne me rappelle plus, la librairie du Château peut-être, ou un truc dans le goût. Et c'est en découvrant des bouquins, dont un bouquin sur Rockwell à l'époque qui m'a fusillé, mais alors vraiment fusillé. Je connaissais Frasetage, je connaissais d'autres gens là-dessus. Mais pas une illustration à ce point-là, qui était parlante, vraiment.
Donc autodidacte complet.
Ouais, plutôt autodidacte. L'école pivot, donc, puisque c'est l'école pivot que j'ai fait pendant un an et demi avant de me dire que ça ne me servirait peut-être pas grand-chose, en fait, était pas mal pour faire de la publicité, mais il fallait encore aimer la publicité, vouloir en faire, faire du prospectus à l'époque ou des trucs comme ça. L'illustration, on n'en entendait pas parler. C'était pas un truc qui les intéressait, la bande dessinée, n'en parlons même pas. Donc c'était vraiment particulier. Donc autodidacte, oui, mais j'ai quand même appris des trucs là-bas, hein, faut pas déconner.
Je sais pas si j'ai de bonnes infos, mais est-ce que tu as bouclé la boucle en enseignant toi-même à l'école?
Non, je n'ai pas fait ce que font beaucoup d'étudiants là-bas, de revenir donner des cours. Non, j'ai même d'ailleurs plus du tout de contact avec eux. Ils m'avaient proposé une fois, parce que je connais maintenant une des personnes qui est là-bas, enfin deux, de venir faire un petit truc, mais ça n'a jamais donné suite. Donc, non, je pense que j'intéresse peut-être leurs étudiants, mais eux, je ne les intéresse pas du tout. Donc, c'est plutôt pas mal.
Et alors, quand on a donc un crayon d'un côté, les livres de l'autre, on passe son temps à dessiner d'après les créatures que tu découvrais dans les livres en question. Là, on voit quelques personnages quand même. J'irais presque des autoportraits, moi, ça me fascine assez quand même.
C'est très proche, en fait, je travaille avec une glace.
Dans la trogne de tes personnages.
Et à la fin, j'ai même plus besoin de la glace, puisque bah, pour celui-là, c'est une de mes grimaces préférées, je pense. J'arrive encore à peu près à mettre la tête à peu près comme ça. Mais non, ça vient quand même des lectures, il faut dire. J'ai vraiment découvert ça par... Alors, c'est imprononçable, c'est Rhinpurlvit, mais imprononçable. Je crois que James Gurnell le prononce bien mieux que moi. Donc ça va. Brian Froud, évidemment, et Alan Lee. Et puis John Bower, un petit peu, qui est l'influence de Brian Froud, qu'on connaît très peu, parce qu'il faut chercher vraiment sur Internet. Il n'y a pas de bouquin de John Bower, mais c'est assez impressionnant. C'est vraiment un très beau boulot. Et puis Rackham et Dulac, qui sont vraiment les influences. Et je pense qu'à partir de ça, on prend ça, on met ça dans un shaker, on prend Rockwell. Et on se demande ce qu'on peut faire avec, et c'est ce que j'ai fait.
Alors, tu parles de shaker, tu bien manger cuisine, hein, parce que je relève une petite phrase quand même du livre. Je ne sais pas s'il est au courant lui-même, mais donc Brian Froud est un petit brownie réputé dans tout le monde de féerie pour l'excellence de ses rêveries et de ses mélodies.
Ouais,
il est au courant que tu le traites de gâteau comme ça ?
Non, mais c'est un bon gâteau, cela dit, c'est plutôt pas mal. Mais c'était un petit hommage, c'est vrai que je n'allais pas mettre Brian Froud dedans, c'était peut-être un peu... On s'est dit, je suis au courant, c'est quand même moi qui l'ai écrit, donc ça va. C'est plutôt pas mal. Non, je crois que c'est vraiment fort. C'est des influences, des recherches, le côté graphique, c'est vraiment Rockwell qui m'a influencé, ça c'est clair. Bien plus que les autres. Après, le reste, c'est vraiment des influences qui sont diverses, justement. J'ai bavé devant l'exposition de James Gurney, m'a fait baver, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, donc... En plus, on a la chance d'avoir ça ici et il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas souvent. Donc.
James Gurney est présent, là il est en train de croquer
Tout
en dessinant, mais je ne sais pas comment on dit baver d'envie en anglais. Alors je peux
on bave très facilement d'envie devant son travail, c'est hallucinant.
Alors un parcours fait de livres, en fait, très peu au service d'autres auteurs, finalement.
Oui, ça, c'est un choix, mais c'est un choix monétaire, il faut être réaliste. C'est non pas que j'aime pas les autres auteurs, au contraire. Je trouve que c'est même, en travaillant tout seul, on a une petite tendance à se mordre la queue, ce qui est un peu désagréable. Malheureusement, au niveau monétaire, si on travaille pas tout seul, on dit divise le coup par deux. Et au final, à l'arrivée, il reste pas grand-chose pour manger. Donc, quand on est un peu lent, comme moi, qu'on a besoin de revenir souvent sur son travail... C'est pas terrible. Je change aujourd'hui, mais avec le temps.
Tu veux dire dans la rapidité ou dans l'envie de travailler
avec... Dans la rapidité, dans peut-être l'envie de faire d'autres trucs. Au départ, j'étais parti vraiment que pour faire du livre, tout en me disant, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas comment je vais réussir à faire ça toute ma vie. C'est assez effrayant comme système. Et après, on se dit qu'il y a d'autres trucs qu'on va peut-être accepter de faire, tout compte fait, qu'on n'aurait pas fait... Des choix de la couverture, travailler pour du jeu, travailler pour du dessin animé, travailler pour...
Tu as fait quelques couvertures, puisque une couverture t'a valu...
J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait pour des amis en général.
Le grand prix de l'imaginaire...
parce que Pierre m'avait fait ma préface, et que j'adore Pierre, et qu'on s'entend très bien. Donc quand il m'a demandé de faire sa couve, j'ai dit oui, c'était pas... Mais c'est vrai que j'en fais pas habituellement, c'est pas mon dada. C'est très mal payé, faut être réaliste. Donc...
Alors... Une peinture traditionnelle et je dirais presque vraiment traditionnelle puisque donc tu travailles à l'huile.
Alors je travaille à l'huile. Au départ, je travaillais à l'aquarelle, purement à l'aquarelle. Ça, ce qu'on voit là, c'est vraiment le systématique de ce que je faisais tout le temps. C'est du petit croquis, un jus très léger et puis hop. Et après, on arrive à ça. Ça, c'est aquarelle et gouache blanche, juste de la gouache blanche dedans. Mais c'est le même processus. Je pars du croquis, je reprends mon croquis, ce qui est assez désagréable. Quand on n'a pas de table lumineuse, parce qu'il faut tout refaire, il faut vraiment le faire bien, et on monte successivement les jus. Et puis j'avais un ami, donc Pascal Moguerou, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui lui travaillait à l'huile. Et je ne comprenais pas pourquoi il allait aussi vite que moi, moi qui travaillais un médium qui est rapide, qui sèche très vite, je ne pigeais pas comment il pouvait aller aussi vite que moi en travaillant à l'huile. Et donc à son contact, j'ai quand même commencé à faire de l'huile, mais j'en faisais pas avant. C'est un médium qui me faisait peur, donc.
Et donc ça, aujourd'hui, tu as réussi à maîtriser
ouais, en fait,
technique
ça va
pour être rapide.
Ça va effectivement aussi vite quand on sait à peu près comment le faire. Mais j'en ai bouffé du bouquin, j'ai écouté pas mal ce qui se disait autour de moi. En fait, c'est très simple, il ne faut simplement pas flipper, c'est tout. Mais comme on stresse à mort quand on commence un truc, c'est pas facile. Donc, il faut trouver sa technique. Il n'y a pas une bonne technique, ni à l'aquarelle d'ailleurs, ni à l'huile. Parce que l'aquarelle est considérée comme un médium qui est quand même très compliqué. Quand on le fait vraiment comme une vraie aquarelle, quand on y rajoute de la gouache, c'est pas si dur que ça. Et ça ressemble un peu à de l'huile, donc pourquoi pas aller faire de l'huile. Non, moi j'ai appris en regardant, en achetant tous les bouquins possibles et imaginables sur, non pas comment travailler à l'huile, parce que dans ces trucs-là, on n'apprend pas grand-chose en général, mais vraiment sur des auteurs qui, eux, travaillent dans cette tradition-là, quoi. Ça peut être les peintres, on en parlait tout à l'heure, les pré-raphaélites, c'est incroyable. Mais il ne faut pas rester là-dessus, parce que si on reste là-dessus, on va se décourager tout de suite. Donc, il vaut mieux aller chercher dans des trucs peut-être plus simples, des auteurs qui travaillent un peu. Il vaut mieux choisir des auteurs qui sont proches de ce qu'on fait, dans un sens, au départ, tout en ayant une référence à côté de soi. Moi, j'achète tous les bouquins que je peux trouver, donc j'ai les autres références, mais je flash quand même sur certains trucs bien précis, qui me permettent d'évoluer dans ce que je fais.
Mais alors, par exemple, tu te nourris énormément donc, de ce que tu vois et trouves chez les autres, par exemple, au travers de lectures et de livres. Et lorsque, par exemple, tu vois le travail d'Alexis et Jean-Sébastien, à un moment donné, est-ce que ça titille pas un peu en disant...
Au départ,
si
faut être,
un peu le numérique,
si,
là,
faut être sérieux. Au départ, ça casse même sérieusement les noix. Parce qu'on se dit, bon Dieu, c'est vraiment d'une très bonne qualité. Et après, on se dit qu'effectivement, moi, une tablette, j'en ai une depuis longtemps. J'avais une petite tablette, un petit machin, mais je m'en servais que pour mes mises en page. J'arrivais pas à passer le cap en me disant que c'est pas un média bien, c'est pas. Et puis, il y a des auteurs vraiment comme eux qui sont sortis du lot, parce qu'ils sortent vraiment du lot, faut être réaliste, qui, au contraire de refaire ce que les trois quarts des mecs faisaient déjà à la tablette, c'est reprendre des images qui existent, et puis les bidouiller, et puis après, on a l'impression que c'est super. Ils ont vraiment travaillé dans le sens artistique. Et ils travaillent comme en traditionnel, il faut être réaliste. Après, il y a des raccourcis, comme il disait, c'est plus simple. Mais ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Donc, je me suis payé une tablette il n'y a pas très longtemps, et puis j'ai commencé. Et en fait, c'est la même chose. Par contre, ça enrichit, il a raison. C'est loin de stopper ce qu'on fait. Ça enrichit la vision qu'on peut avoir de son propre travail et de ce qu'on a envie de donner dessus. Donc, c'est vraiment travailler les deux, c'est bien. Si vous avez la chance de bosser avec les deux, il faut le faire. C'est le traditionnel est super pour vraiment apprendre et pour avoir le contact avec la matière, parce que c'est important. Et vraiment important pour ne pas perdre pied, pour ne pas faire de copies, pour ne pas retomber dans des trucs déjà faits, déjà vus. Et par contre, le fait de travailler le numérique, c'est une ouverture d'esprit, mais potentiellement inimaginable.
Et quand
c'est énorme.
Quand tu travailles en traditionnel, donc tu fais comme James Gurney, à savoir tu sors de chez toi et tu vas poser dans l'herbe pour aller croquer le...
Je l'ai fait au début, mais c'était plus pour croûter qu'autre chose. C'était des petites aquarelles, des petits trucs de bord de mer. Donc bon. Et après, je l'ai pas refait. J'en rêve. J'adore ça. Je trouve que c'est incroyable. Mais non, c'est pas. Je crois qu'on a chacun nos méthodes. Moi, je suis très visuel. Moi, je regarde, je mémorise. Alors, je suis nul pour mémoriser un texte ou un machin, mais pour mémoriser des lumières, des formes, des impressions, ça, c'est mon dada, quoi.
Tu emmagasines tout ça, et puis une fois devant ta table à dessin...
Que tu sois en voiture, que tu sois n'importe où, tu penses à une couleur, à un lever de soleil, une impression de brume, ça, j'adore, surtout au matin, c'est terrible, c'est avec des ambiances vertes, des trucs, alors que j'utilise très peu de vert dans ma couleur, d'ailleurs. Mais c'est des choses que tu mémorises. Tu retrouves ça dans les films. Par contre, je fais comme Alexis, c'est que je me passe des films en continu.
D'accord.
Je ne les écoute pas, hein, je ne les regarde plus, parce que de toute façon, je les connais par cœur, les trois quarts. Mais c'est les ambiances. Je vais avoir vraiment des flashs, c'est comme la musique. Je me fais mes compiles, moi aussi, de musique, d'images, de trucs. C'est rigolo. Ça permet d'évoluer. Mais je ne fais pas comme James, malheureusement, C'est incroyable, ça, et d'aller sur le motif.
Quand tu parles de film, rassure-moi, tu ne vas pas me dire que le petit peuple est né en regardant, par exemple, la trilogie Matrix à fond, à côté, quoi.
Ça pourrait. J'ai écouté des trucs improbables, hein, j'ai même des trucs très à la con, donc... Mais non, en fait, c'est plus une question... Eux, ils parlent d'énergie, alors moi, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est vrai que c'est... Je pense que c'est dedans, c'est vrai. C'est des impressions. On peut regarder n'importe quel film. J'ai regardé des trucs qui étaient pas... J'ai même pas d'idée en tête ici. Mais ça peut être du dessin animé, ça peut être plein de trucs qui vont passer en continu à côté. Et puis...
Et les personnages que tu vas... Enfin, les êtres humains que tu vas croiser... de temps en temps vont t'inspirer les trolls que l'on retrouve dans tes...
Ouais,
dans tes
ça livres. C'est moins pour les trolls et les machins, quoique de temps en temps on voit effectivement des gens assez... qui ont tout à fait la tête, mais bon, non, c'est plus... C'est vrai, tu vas faire tes courses, tu vas faire un truc, t'as toujours des trolls qui traînent, donc... Puis c'est un plaisir, je pense que... Je suis pas un caricaturiste, je sais pas très bien le faire, il y a vraiment des gens qui font ça très bien. Moi, je rattrape juste la... Je sais pas, c'est une émotion chez les gens, c'est tout. Et je me sers de cette émotion pour refaire mes visages, mais c'est pas de la caricature. C'est d'ailleurs.
Oui, t'as une, c'est une déformation visuelle qui te fait voir le monde.
Ouais, je pense que je vois un truc particulier.
Il y a pas d'autre être humain, parce que je reprends une phrase de ton site, par exemple, tu n'es entouré que de fées menues et dodues, de nabios contrefaits, d'elfes soupaulés et de gobelins hirsutes, c'est ça.
Ouais.
Et donc là, par exemple, enfin, j'ose pas imaginer, moi. Je préfère pas te poser la question.
Ouais, le costume serait peut-être plus rigolo.
Hirsute, c'est râpé. Mais...
Non, hirsute, c'est pas ça. Mais non, c'est vrai. Je pense que je mêle pas l'humain parce que je trouve qu'on vit déjà dedans. C'est pas la peine d'en rajouter, quoi.
Et alors, par exemple, dans ton apprentissage du dessin, j'imagine que tu as fait du croquis d'après
modèle
vivant,
des choses
comme ça.
Pas mal de croquis. On avait. Je vais revenir.
Tu es moins à l'aise là-dedans, du coup, et ça te.
Non, je suis pas moins à l'aise. J'adore ça. Puis c'est un truc que je fais assez facilement en plus. D'accord. Donc le croquis, c'est la base. Le croquis, c'est la vie dans le dessin. Après, tout ce qu'on va mettre par-dessus, c'est plus vivant. Il faut être réaliste, ça va perdre beaucoup. Donc c'est le croquis, c'est vraiment un truc à travailler. Et puis c'est un truc qui est passionnant. C'est une étude sur n'importe quoi. C'est, moi, ça me fait passer mon temps, en tout cas, sans problème. Non, c'est... pour le travail, je disais ça parce que j'en revenais à cette école... Qui m'avait promis des cours de nu. Alors j'en veux un peu parce que normalement on devait avoir des cours de nu toutes les semaines. On en a eu un dans l'année, donc c'était assez dramatique. Donc j'espère qu'ils ont fait des progrès. Bon, je ne serai plus invité, hein, c'est clair.
Faut voir, ils sont pas dans la salle. Donc les livres là, sur ta rencontre avec Au bord des continents.
Oui, alors il y a deux choses. Avant la rencontre avec Au bord des continents, il y a la rencontre avec Herlé, donc que j'ai fait à Nantes, puisque Herlé était nantais lui aussi. Et on s'est rencontrés dans un café qui s'appelait Légende, donc c'était déjà pas mal barré. On savait pas quoi faire du tout tous les deux. Lui sortait des Beaux-Arts, moi j'avais complètement arrêté l'école et le reste. Donc moi, je me dirigeais vers la pub, lamentablement, en faisant de temps en temps des affiches, parce que j'avais quand même des amis qui bossaient dans le théâtre, donc je leur faisais les affiches de théâtre ou les petits décors, c'était rigolo. Et puis, on a fait cette rencontre, et vraiment, je pense que c'est là qu'on a commencé à rêvasser, à se dire, ah tiens, t'as tel livre, t'as tel truc, t'as vu ça, pourquoi on ferait pas un truc ensemble? Et ça a vraiment, ça a pris du temps, hein, tout le monde se foutait un peu de nous, en disant, ouais, vous allez faire des livres, c'est super, ouais, c'est ça, un an, deux ans passent, trois ans, toujours rien. Puis un jour, on a décidé de partir et on est parti ensemble. Et puis on a loué une baraque et on a commencé à travailler. Et là, ça a vraiment ça a décollé. On a compris qu'à deux, c'était bien plus facile de se lancer sur quelque chose que tout seul, c'est clair.
Oui, l'émulation dont nous parlait.
Oui, une vraie émulation. Et puis à l'époque, une vraie passion. Parce que Herlé était plus branché peinture, il l'est toujours d'ailleurs. Et on avait des longues discussions sur tel médium, telle façon d'utiliser telle couleur, telle... Je sais pas, ça a servi, je pense, ça a un peu détourné le sujet de temps en temps. Mais c'est passionnant, c'est vrai que c'est... Et en fait, à partir de ça, on a commencé à chercher des éditeurs. Moi, j'avais commencé des illustres, des petits trucs. Herlé avait fait pas mal de petits machins aussi. Et on a démarché, même si on a fini par débaucher un éditeur. Mais on a démarché les éditeurs qui, en Bretagne, évidemment, n'étaient pas du tout intéressés par la féerie, ce qui est quand même assez délirant. Mais à l'époque, la féerie, niette, personne n'en voulait. C'est du roman de gare, la fantaisie, la féerie, c'était pas mieux. Donc bon, on a fini par décrocher quelqu'un qui n'était pas plus intéressé par cet univers, hein, faut être sérieux. Mais qui, par contre, nous a laissé libre cours... à l'imaginaire, et puis nous a aussi donné les moyens de le faire à l'époque. Donc c'était un bon travail.
Et donc aujourd'hui, c'est une relation d'un éditeur avec un auteur. Et a priori, disons, le livre dont tu auras envie, en fait, sortira quasiment obligatoirement. Enfin,
ouais, c'est. Je fais mes livres, je crée mes livres. Voilà.
L'éditeur, là.
Ouais, enfin, ça va changer d'éditeur, donc déjà, ça sera différent. On a pu, il y avait une magie au départ, et là, un peu explosé en poudre à perlimpinpin. Donc, c'est et vraiment à perlimpinpin, donc c'est pas mal. Mais non, c'est, ça naît de toute façon d'un livre, toujours d'une image et d'une envie. Donc, le livre, oui, restera. Je fais d'autres trucs en attendant, mais le livre restera.
C'est, et que ce soit les carnets de croquis, donc là où...
Les carnets de croquis, c'est un plaisir.
Parce une vue sur ton ouais. travail personnel, c'est et puis ensuite, ouais. donc, un sujet qui va te lier sur un projet...
Le carnet de croquis, c'est le moyen de présenter des choses qu'on ne ferait jamais autrement. Parce que je n'ai pas fait... Tu vois, j'ai même pas osé dans mon dernier carnet de croquis mettre de la SF, alors que j'en fais, ça m'amuse de faire des robots déglingués, des petits trucs, c'est rigolo. Mais mon éditeur a regardé le truc et puis m'a dit non, tu vas pas mettre ça, c'est pas féerique, on va pas en vendre. Donc c'est un très bon argument d'éditeur d'ailleurs, je trouve, un très mauvais en soi. Mais bon. Mais Pascal a eu la chance, grâce à ça, de faire après son bouquin et de lui mettre de la SF sans problème et de passer des caps qui étaient différents. C'est le carnet de croquis, c'est vraiment une façon de présenter ce qu'on a dans la tête sans avoir forcément une histoire à raconter, ce qui est vachement bien. Alors que le livre, comme on le fait, il faut quand même avoir d'abord l'histoire à raconter, l'envie, et puis après, c'est long. C'est moins long aujourd'hui qu'avant, parce qu'avant, il me fallait plus de 2 ans pour faire un bouquin, ce qui était terrible. Aujourd'hui, il faut un an, quoi, en grosso modo. En comptant la recherche, l'histoire, le reste.
Oui, sur les recherches concernant par exemple les personnages, donc il y a quand même une grosse documentation sur ce qui a été fait pour rester dans cette. Tu as le souci de rester dans cette unité, disons de.
Non, en fait, je pense que c'est que je ne sais pas faire autrement. Donc, si je savais faire autrement, je pense que je changerais un peu. C'est bien de varier, mais je sais faire ce que je sais faire et puis point à la ligne. Donc, j'évolue, ça change, mais. Mais non, c'est pas une volonté. Hein. C'est plus que c'est facile. Et quelque chose de facile, on le fait assez simplement. C'est, de temps en temps, je change. J'essaie des petits trucs, je m'amuse. Je pense que plus ça va, plus on s'amuse et plus on est à l'aise aussi avec le livre. Donc c'est.
Parce qu'il y a quand même des juxtapositions. Des fois improbable, quoi. C'est vrai que lorsqu'on voit quelques objets un petit peu insolites à proximité de tes personnages, on imagine une histoire qui des fois est presque, disons, subversive, quoi, par rapport un petit peu à ce que l'on imagine de ce monde de féerie.
Quoi. Ouais, ça, je pense
c'est pas, c'est pas tout à fait.
Non, mais
c'est
ça
pas
doit
les bisounours,
jamais...
quoi. Regarde, par exemple, ouais, moi, c'est pas les bisounours.
Ça doit jamais être propre et lisse. C'est toujours. Toujours détourné. Le truc pour raconter une histoire, c'est de ne pas partir du point de vue le plus simple ou de cacher des trucs. C'est vachement bien de cacher des trucs parce qu'on peut y revenir après. On va se focaliser sur du petit détail, des petits trucs. On va regarder, tiens, la petite fée est mignonne, celui-là est affreux. Mais on verra tous les petits détails au fur et à mesure, en fait. Et chacun de ces détails va raconter une histoire particulière. C'est de là que ça vient, en fait. Quand je commence un croquis, il me raconte une histoire. Si l'histoire n'est pas bonne, il finit à la poubelle. Si l'histoire est pas mal, il peut finir en couleur.
C'est la clé de l'humanité de tes personnages dont on parlait un peu.
Je pense que c'est ce qui les rend humains, c'est ce qui leur donne la vie. Il suffit de voir, on est tous habillés d'une certaine façon, on porte tous même si c'est un tout petit signe, c'est toujours un signe distinctif. C'est une façon de se reconnaître et de se poser là, quoi. Mm-hmm. Et mes personnages sont pareils, ils ont cette façon-là de se poser. Alors ça peut être un couteau dans le dos, ça peut être un petit truc dérangeant qui va, alors qu'il paraît propre et mignon, mais c'est toujours ça, c'est toujours un petit événement.
Oui, propre et mignon, c'est pas le mot, moi.
Ouais, propre et mignon, mais parce que moi j'aime bien propre et mignon. C'est, ouais, bon, là on voyait de la fantaisie tout à l'heure, ça c'est aussi un de mes dadas, mais c'est vachement dur de faire du livre vraiment sur la fantaisie quand on est dans un traditionnel comme ça. Parce que la fantaisie demande justement tout l'habillage qu'ils ont fait avec Jean-Sébastien et Alexis. Ils ont fait un habillage qui est. C'est une esthétique, réellement une esthétique. Quand on fait la même chose avec la féerie, on a vite tendance à se paumer complètement et on ne sait plus de quoi on parle. Et moi, ce n'est pas mon dada en tout cas. C'est plus compliqué. Ça demande moins d'onirisme, je pense. On peut le faire, hein, ça peut être sympa, mais sur tout un livre, ça peut être fatigant. Alors que dans un côté fantasy, comme ils ont sur Merlin, où c'est justement onérique, je trouve que c'est bien placé, c'est bienvenu. C'est pas, on ne raconte pas la même chose, évidemment. Mmh.
Oui, risque de tomber un peu dans des clichés. Quoi.
Des clichés, des automatismes. C'est un petit côté, entre guillemets, sectaire, pour certains côtés féeries, où on pourrait penser qu'on est un peu barré. Quoi. Ce qui n'est pas le cas du tout, mais...
Non. Tu me dis, oui,
pas le moins du monde.
Oui, c'est vrai que les personnages sont en tous les cas très attachants. Quoi.
Ouais, je crois que c'est vraiment le truc, qu'on les fasse grimaçants, horribles ou plutôt sympathiques, c'est le côté attachant. Même des personnages qui sont censément affreux ont un côté attachant. C'est ce qui va leur donner l'humanité derrière. Bon, à part pour certains trucs, on voudrait même ça, je pense, même dans la fantasy, un gros barbare et hirsute qui peut être dégueulasse, aura toujours un petit côté attachant. Autrement, on finit en connant le barbare alors que c'était pas mal à l'époque, mais qui est un peu ridicule, faut être réaliste. Ça n'a pas ce côté humain, quoi. Mmh. C'est alors, trop propre.
Sur tes différents personnages, donc, il y a une peinture, moi, qui m'a semblé un petit peu sortir du lot, c'est tes incursions sur les dragons.
Oui, ça, c'est très dur, d'ailleurs.
Mais c'est, alors, j'ai envie de te demander un petit peu comment se passe, par exemple, il y a le dragon bleu là, que l'on voit sur ton exposition sur l'expo Artefact. Comment se passe l'élaboration de ce type d'image? Combien de temps ça te prend? Parce que les grandes peintures à l'huile, je pense qu'il y a...
En fait, la peinture, c'est vraiment... cette peinture-là en particulier, c'est une véritable histoire, parce que ça a été très long. Ça a dû durer plus de 6 mois, je pense. Mais ce n'est pas 6 mois tout le temps, hein. C'est 6 mois, de temps en temps 1 heure, quoi. De temps en temps 2 heures, de temps en temps on efface tout, on recommence. Elle est passée par plein de stades, plein de couleurs, plein de trucs. Elle est passée par plein de musiques, plein de films derrière. J'ai regardé des kilos de films. Je me suis arrêté sur Godzilla parce qu'il y a de très bonnes ambiances colorées dedans. Mais j'ai effacé pratiquement systématiquement tous les jours tout ce que je faisais. C'est un peu comme Pénélope en attendant Ulysse.
D'accord.
Tous les jours, j'enlevais un bout. Et tous les lendemains, j'en rajoutais un. Et tous les lendemains, j'en enlevais un. Puis après, je discutais beaucoup. On se voyait pas mal avec Pascal et on bavardait. Alors, tel truc, tu le ferais comment? Puis un jour, j'ai fait venir chez moi parce que j'avais marre de défaire, refaire continuellement. Je voulais un truc parfait, une image parfaite. C'est impossible à faire, évidemment, mais c'est très prétentieux en plus. Mais j'avais vraiment une idée en tête tellement précise de ce que je voulais qu'il fallait qu'elle sorte. Et elle voulait pas sortir. Donc, j'ai fait faire à Pascal des croquis, des tas de trucs, des ailes, des machins qui m'ont pas... vraiment satisfait, qui ne m'envoie plus dans ce sens-là. C'était très bien, mais c'était du Pascal. Donc, ça ne pouvait pas aller de toute façon. Je ne pouvais pas recopier du Pascal. C'était trop personnel et trop... Et donc, un soir, j'ai été le voir. Je ne sais pas pourquoi. On a discuté, mais longuement, sur la peinture, comment l'aborder, comment ne pas avoir la trouille de s'y mettre et puis de s'arrêter, surtout. Parce que Pascal a un truc qui est très bien, c'est que lui, il sait s'arrêter. Moi, j'ai du mal. Et il m'a dit, mais arrête-toi. Je lui ai dit, il n'y a plus rien sur la toile, parce que là, il était venu le jour d'avant, et j'avais tout gommé. Il ne restait plus qu'un la tête, l'œil, et puis un bout de la bouche. Et il me dit, mais arrête-toi, il faut que tu t'arrêtes. Et je suis rentré le soir, on avait un peu bu des trucs, non pas tourbés, mais cette fois qui sentent plutôt la steppe. Donc c'était plutôt rigolo. Et j'ai pris les toiles, j'ai pris le cochon, que j'avais commencé le cochon avec sa charrette, j'avais commencé aussi. J'ai mis tous les deux, chacun sur un chevalet. L'avantage d'avoir quand même une pièce assez grande pour travailler. Et j'ai pris mes pinceaux, j'ai sorti les couleurs, et puis je me suis dit, ben maintenant je termine, et demain matin c'est fini. Il était 2h du mat, et il fallait que ce soit terminé, mais clos, comme disait Pascal. Et puis j'ai fini.
Les deux images.
Oui, et j'ai eu du pot, parce que c'est bien passé, ce qui n'était pas du tout évident, en fait. Mais j'ai écouté ce qu'il m'avait dit, arrête-toi à l'essentiel, va pas trop dans le détail, cherche pas trop, fais... C'est une bonne leçon.
Ne va pas trop dans le détail. Quand on regarde, vous irez regarder de près la peinture concernant le cochon et la roulotte et vous retiendrez la phrase « ne va pas trop dans le détail ».
Non, mais il y a du détail, là, mais c'est pas pareil. Le dragon est différent. Le dragon est plus vivant. J'ai lâché plus de trucs. Ouais. La carriole, j'ai pas eu grand-chose à faire. Il y avait la pluie, le sol à terminer, puis le cochon. Donc, ça va, quoi.
Bon, on va passer à des questions dans le public, si vous le souhaitez. J'imagine que la rencontre avec Jean-Baptiste ne se fait pas tous les jours, puisque, si j'ai bien compris, il passe le plus clair de son temps dans cette fameuse pièce aux deux chevalets.
Moi, je ne bouge pas beaucoup, mais c'est-à-dire je bouge plus que Pascal, qui, lui, ne bouge pratiquement pas du tout. Donc, qu'aime bien ça, pourtant.
Juste avant les questions, donc, parce que Jean-Baptiste donc, bouge peu, mais quand même va bouger pour de bon, puisque le projet est d'aller vivre.
Oui, j'ai un projet depuis des années, mais c'est d'aller mettre les pieds dans la neige au Canada. Voilà. Et on a fait une demande pour aller à Montréal.
Une fuite de cerveau français supplémentaire.
Oui, c'est surtout besoin de changement quand on a besoin d'air. Et on s'aperçoit à un moment que là où on travaille ou là où on est, c'est pas assez grand. Il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, j'ai à trouver ailleurs.
Donc, on va voir des gnomes hirsutes dans la neige.
Oui. Et puis, je pense que ça va influencer. J'avais déjà mis, si on regarde dans Celtic Ferry, il y a un chloricone sur un raton laveur. Et c'était ma première incursion en me disant, ça, dans pas longtemps, c'est peut-être moi qui serai là-bas. Donc,
d'accord.
C'était le truc, quoi.
Donc, les ratons laveurs, donc à bien se tenir. Alors.
Ouais, on verra, c'est rigolo. J'ai déjà repéré des lieux, des trucs qui pourront faire des petits sujets d'histoire. J'ai mélangé les deux, je pense que. De toute façon, je devais faire un bouquin sur la féerie nordique, en fait. J'avais prévu autre chose, parce que normalement, on change d'éditeur, on va chez le Lombard, Pascal et moi. Donc, on avait chacun un bouquin à faire et à prévoir. J'avais prévu autre chose pour digérer un peu le livre, et puis en fait, j'ai eu des projets entre deux dont je ne peux pas parler, malheureusement, mais qui m'ont vraiment sorti du livre, donc j'ai digéré ça.
Même pas un nom Même pas un nom.
Si, j'ai le droit de dire que c'est pour Sony et que c'est de l'animation, mais c'est tout.
Sur un film d'animation actuellement.
Oui, enfin, c'est d'après prod, c'est tout. Donc, on ne peut pas en dire plus. Après, je me ferai tuer, puis c'est...
Donc, on va les voir bouger dans pas longtemps, alors, c'est ça?
Ce ne seront pas les miens, mais on verra sûrement bouger quelque chose qui pourrait ressembler, sérieusement. Donc, c'est plutôt rigolo. Ça sera différent, mais c'est... Mais il y en aura d'autres, parce que j'ai aussi d'autres projets derrière où ça bougera peut-être avec les miens cette fois, donc ça, c'est pas mal.
Et les projets nordiques, toujours donc avec le Lombard, tu dis?
Oui, ce sera Nordic Ferry, je pense. Ce sera un peu différent, ça portera peut-être même pas ce nom-là. Et puis, mais je vais mêler des histoires, ce sera plus du conte. Raconter des trucs, j'ai envie de raconter un peu, ça va être changer un peu. Mélanger, on verra.
Ça donne envie.
Bah, on verra.
Donc si vous avez quelques questions quand même, parce que Jean-Baptiste est quand même de la région, je dirais. Donc il y a forcément quelque chose dans son travail qui fait un peu référence, je dirais, à la part d'enfant de chacun. Donc il y a forcément des personnages que vous avez croisés d'une façon positive ou négative. Alors si vous voulez pas nous raconter un petit peu ça et poser des questions à Jean-Baptiste, que ce soit son travail ou sur ses cauchemars ou Dieu sait encore.
Non, j'ai pas de cauchemar. Enfin, si, mais bon. Je garde pour les livres.
Est-ce que vous avez déjà touché à la peinture acrylique ou est-ce que vous utilisez parfois, comme c'est un médium qui est assez rapide à travailler, comparé à l'huile?
Alors, l'acrylique, j'y touche pas du tout. C'est un vrai plastique et c'est un vrai merdier. Donc, c'est très compliqué. En fait, si je touche à l'acrylique, je suis menteur. Parce que je touche à l'acrylique en petites bouteilles, les petites bouteilles pour aéro où elle est liquide. Et je m'en sers à la façon aquarelle. Parce que ça, c'est plutôt pas mal et on peut charger, on peut aller de l'avant. Mais l'acrylique, autrement, c'est un vrai plastique et je n'y comprends rien. Mais alors, rien du tout. Il y a des médiums, des trucs qu'on utilise avec. Non, je sais pas faire. J'ai fait une ou deux fois, mais à chaque fois, je rajoute des trucs dessus, puis je finis par regouacher par-dessus, et je vernis le tout pour que ça tienne. Donc, mais non, l'acrylique, je ne sais pas. Je pense que c'est particulier. Il y a des façons simples de la travailler, mais j'y arrive pas. Je ne comprends pas le truc. En plus, j'aime pas leurs couleurs, que ce soit Liquitex ou Gold ou d'autres trucs. C'est des couleurs qui sont moches, qui sont ternes, qui sont tristes et qui ont du mal à vibrer. Même en jus ça marche, mais à plat ça marche pas. Il y a d'autres trucs qui sont mieux que ça.
Et du coup une peinture à l'huile que vous faites, une illustration, le temps que ça sèche, ça vous prend une semaine, un mois?
Non, faut pas croire. Il y a un truc qui est, il y a certaines couleurs qui mettent du temps à sécher à l'huile, mais c'est des couleurs en général qui seront des couleurs un peu plus épaisses. Et c'est des couleurs auxquelles on va faire des adjonctions, par exemple de blanc. Quand on met du blanc dans une couleur, elle va sécher moins vite. C'est tout. Mais il y a des petits médiums qui permettent de sécher un peu plus vite. Il y a des trucs. Ça, c'est des questions qu'on devrait poser à James, parce que lui, il maîtrise. Moi, je ne maîtrise pas. Moi, je fais ça au hasard. C'est des petits jus, des petits trucs, mais ça sèche assez vite. Hein. Je fais un truc, le lendemain, c'est sec, je peux repasser dessus. Puis je me suis fait une réglette aussi, qui est très pratique. On fait une réglette avec deux petites cales en dessous, et comme ça, quand tu bosses à plat, bah, tu mets pas, tu touches pas ta peinture. Donc faut, ça délie le poignet, c'est un peu chiant, mais on arrive à faire des détails très fins et des trucs où on ne touche pas en fait à ce qu'il y a en dessous. Puis bon, avoir un bon truc pour les embûts et les machins comme ça quand on en fait, un bon petit chiffon aussi, gratter un peu, puis ça passe. Mais l'huile, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste avoir, on peut mettre les alkyds en dessous, moi j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est quand même, on peut la mixer à l'huile, donc c'est vachement pratique, et faire ses bases, des trucs assez jetés, assez rapides, et puis revenir dessus, quoi. Faut pas penser en détail. Quand on travaille, la différence avec l'aquarelle, on peut penser dans le détail. On peut vraiment travailler, monter très tranquillement son truc. À l'huile, faut commencer par quelque chose d'extrêmement des masses, des volumes, des trucs. Et en fait, c'est en faisant ces volumes qu'on dessine en même temps et qu'on dessine ce qu'on est en train de faire. J'ai pas une seule peinture à l'huile où j'ai suivi pratiquement du début à la fin ce que j'avais sur mon croquis au départ. La couleur change le dessin qui est en dessous. C'est assez rigolo. Mais
D'accord.
Merci. Voilà.
D'autres questions? Je vois un doigt se lever là-bas au fond. Donc, pour résumer, tu as dit que tu le faisais au hasard. C'est bien ça, hein?
Oui, le hasard entre beaucoup dans ce que je fais. Non, mais c'est vrai. Ça fait sourire, mais c'est vrai. Bon, j'arrive pas à tenir un truc. Je commence un croquis, il va changer pendant que je le mets en couleur. Je ne sais pas faire le truc où le mec il part avec une image et il se dit je vais avoir ça au départ et j'ai ça à l'arrivée. Ça me fait flipper, moi. J'ai l'impression que c'est déjà fini. Donc, dans ce cas-là, j'arrête, je pose mon truc et puis je m'en vais. Quelqu'un va faire la couleur à ma place, ça va être bien.
Donc une question?
Est-ce que le dessin c'est pareil que l'écriture?
Ah oui, c'est une bonne question.
Sacrée question.
Pour moi, c'est exactement la même chose. Le dessin, c'est vraiment comme l'écriture. Je raconte de la même façon et je l'envisage de la même façon. Je commence toujours par un brouillon, un espèce de rough. Alors, j'écris bien plus mal, j'espère que je dessine. Enfin, je crois, malheureusement. J'aurais bien aimé très bien écrire parce que c'est superbe. On n'a pas besoin, à la limite, on n'a même plus besoin de dessiner quand on sait bien écrire. C'est terrible. Mais c'est vraiment la même façon de l'aborder. On fait un brouillon, on fait un croquis, on le laisse traîner un petit peu, et puis il re-raconte quelque chose, on revient dessus, et ça évolue de la même façon. On va y chercher de la couleur, on va y apporter des sons, des impressions, des petits détails. Je suis très petit détail, moi. Je vais en mettre autant quand je raconte que quand je dessine. Donc voilà.
Moi, pour compléter aussi, je dis souvent que illustrateur et auteur, c'est le même amour de la lecture, mais interprété différemment.
Ouais, faut vraiment aimer lire. C'est ce qui est rigolo, parce que je dirais ça, les vieux profs que j'avais à l'école me riraient au nez. Non, il fallait que je lise, il paraît, j'étais pas très doué. Mais ça m'a passionné. Dès que j'ai découvert les bouquins dans la cave de mon père, il fallait vraiment qu'il les cache pour pas qu'on les voit. Mais il y avait du John Carter, il y avait plein de trucs qui m'ont, moi, fait rêver et qui m'ont fait découvrir la lecture. Je pense que sans la lecture, on ne peut pas développer un imaginaire, donc on ne peut pas rêver, en fait. Et si on ne rêve pas, on ne crée rien. C'est vide de sens. Tout le truc, ce n'est pas de savoir dessiner, ce n'est pas de savoir mettre sa couleur. Ça, c'est super, mais ça, c'est technique. Tout le truc, c'est d'avoir un rêve à emporter, quoi, et un rêve qui puisse emporter les gens. Autrement, ça ne sert à rien. On peut avoir autant de couleurs qu'on veut, autant de dessins qu'on veut, une super palette, une super tablette, un bel écran. Mais si on ne fait pas rêver, au final, il n'y a rien, il ne reste rien.
Belle réponse.
Enfin, bon.
D'autres questions?
Bonjour, monsieur Monge. J'aime beaucoup ce que vous faites.
Ah, bonjour,
monsieur. Pour rebondir sur ce dont vous venez de parler à l'instant, en fait, dans toutes vos images, il y a un storytelling qui est extrêmement fort. Il y a un amour des personnages. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Est-ce que vous n'avez pas d'autres envies en fait pour explorer des médias différents? Vous en avez parlé vite fait tout à l'heure, que ce soit l'animation, le jeu vidéo, la bande dessinée.
Ouais, si, il y a beaucoup d'envies. Et puis j'ai découvert des trucs grâce à toi et à ton ami et à d'autres évidemment. Il n'y a pas que vous dans la vie, mais c'est tellement de qualité que. J'ai acheté une tablette il n'y a pas longtemps, j'ai bossé un peu pour du cinéma. Il y a effectivement des histoires de jeux, il me semble bien, avec quelqu'un que tu dois connaître, qui sont assez proches de toi, donc qui développeraient sur un univers assez proche du mien cette fois. Si, c'est passionnant en fait. On raconte quelque chose et on va le raconter avec différents médias, dans différents médias. C'est, on ne peut pas toucher à tout, mais on peut toucher à tout. On ne le fera jamais aussi bien qu'une chose, mais c'est passionnant. Je pense que c'est une découverte à chaque fois. Donc, si on n'a pas ça, on va s'ennuyer dans ce qu'on fait. Tu parlais tout à l'heure de te remettre au traditionnel et que tu avais évolué vraiment avec ça. Tu racontes la même chose que ce que tu es en train de faire déjà à la tablette. T'as toi-même du storytelling, je présume que tu entends dans ce sens-là. Vraiment, chaque chose raconte et dit une histoire. On fait exactement le même truc, on va le faire sur différents médias. Tu le fais quand tu fais une couve. J'aimerais bien le faire sur du jeu, j'aimerais bien le faire sur d'autres choses. Le cinéma, ce serait terrible.
La bande dessinée, par contre ?
Non, pas du tout. Pour une bonne raison, c'est que là, vraiment, c'est quelque chose de trop différent. Le cinéma, c'est de l'image, elle bouge, elle machine. La bande dessinée a beau être proche de l'image, on ne peut pas détailler une bande dessinée comme on détaille un roman. Si on commence un roman, une illustration. Si on commence à le faire, on se paume et on n'arrive pas à le lire. Il y a des auteurs qui sont très forts là-dessus. Civiello, que j'aime bien son travail, même beaucoup son travail. Mais c'est illisible, il faut être réaliste. Donc on ne peut pas le lire. On ne le lit pas comme une bande dessinée. Puis ça demande de la minutie, ça demande de la finesse, ça demande d'aimer raconter une histoire sur toute une... sur quelque chose d'extrêmement long. Moi, ce n'est pas mon dada. J'aime bien raconter des histoires courtes. Une bonne histoire est une histoire courte, il paraît. Donc, bon. Est-ce que ça répond à votre question ?
Merci.
Merci, monsieur.
Pour la petite histoire, les originaux, il risque d'y avoir une exposition-vente
à
Drouot.
Il y aura peut-être une exposition-vente à Drouot s'ils acceptent mes prix, ce qui ne va pas être facile, je pense. Donc
si
verra.
Vous voulez, après le repas, vous pouvez retrouver Jean-Baptiste sur le stand Artefact.
On a fait du tirage du dragon grâce
à
Alex Gala.
Il a été fait un tirage exceptionnel du dragon.
Ouais. Qui risque pas d'ailleurs, on risque pas d'en voir beaucoup parce que c'est pour un éditeur, c'est impossible de sortir un truc comme ça, vu le format. C'est un format bâtard. J'ai encore fait un truc un peu bateau.
Voilà, donc c'est
1m20 long,
30,
50. Donc
30
là,
ou
il doit
50,
faire 30 par 50. Ouais, je sais
mais le nombre d'exemplaires, je crois que c'est 30 ou 50.
C'est 50. 50 exemplaires. Voilà.
Donc ils seront dédicacés et numérotés. En attendant Drouot.
Hein. Ouais, on verra.
Ce ne sera pas la même chose.
Non, ça paiera peut-être mon installation au Canada si ça marche. Donc voilà.
Voilà, je remercie questions. Jean-Baptiste pour son accueil, je dirais presque, hein, parce que là, on était dans ton salon avec une petite chemise.
Si on avait été
whisky.
Dans mon salon, on aurait déjà eu un whisky, ça aurait été plus sympathique.
Bon, ça va arriver.
Et puis, c'est moins stressant, parce que là, il y a quand même du monde. Moi, je n'ose pas lever les yeux, vous remarquerez.
Merci pour ton travail et pour ta générosité.
Ben, merci à toi.
À bientôt.
Super.